Alexandra Kollontai, son nom résonne par-delà les décennies jusqu'au bout du siècle. Née en 1872 à Saint-Pétersbourg, morte en 1952 à Moscou, elle est un personnage clé de la révolution de 1917, une pionnière du féminisme socialiste et la première femme ambassadrice au monde. Objet d'un regain d'intérêt majeur depuis quelques années, tentons de comprendre ce matin qui elle était et ce qu'elle était, son le cœur battant de cette pensée qui perdure grâce à un livre qui vient de paraître aux éditions La Fabrique. Une biographie intellectuelle de Kollontai, un ouvrage intitulé Kollontai, défaire la famille, refaire l'amour, un texte signé Olga Bronikova et Mathieu Reynaud. Et c'est vous que nous recevons ce matin, Mathieu Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Commençons tel que votre ouvrage commence. Automne 1920, on est à Moscou. Clara Zetkin, membre fondatrice de l'Internationale Socialiste des Femmes, s'entretient avec Lénine dans le cabinet de travail de ce dernier au Kremlin. Et ils sont en désaccord sur un sujet, au sujet d'une théorie, la théorie dite du verre d'eau. De quoi s'agit-il ?
Alors c'est quelque chose qui se joue au lendemain de la guerre civile en Union soviétique, quand les questions de ce que va être la société communiste ou ce qu'elle pourrait être se pose. Zetkin et Lénine parlent de l'émancipation des femmes, jusque-là tout va bien. Lénine dit qu'il faut abolir autant que faire se peut les tâches domestiques, les femmes doivent sortir de la sphère privée dans laquelle elles ont été confinées. Et après il y a un blocage chez Lénine, le blocage est sur la question sexuelle, sur la morale sexuelle. Il va dire en fait il y a des féministes, il les appelle pas comme ça, mais qui passent un peu trop de temps à discuter des questions de révolution sexuelle, de morale sexuelle. Et il cite alors cette théorie du verre d'eau qu'il n'attribue à personne, mais derrière ça, il y a très certainement comme objet Alexandra Kollontai, la théorie selon lui, selon laquelle dans la société communiste, il sera aussi simple de faire l'amour que de boire un verre d'eau. Voilà, et qui l'identifie immédiatement à une sorte de communisme sexuel grossier. Tout le monde couchera avec tout le monde, alors qu'il est quand même plus fin sur d'autres analyses, dans d'autres domaines. Et voilà, c'est une théorie qu'en fait, dont on pourrait retrouver les sources chez Auguste Bebel, dans un livre qui s'appelle « La femme et le socialisme ». Il le répète au moins 3-4 fois, ça n'avait jamais choqué personne. Il l'attribue à Luther, c'était assez respectable, rien de très compromettant. Mais venant de la bouche de Kollontai, venant de la bouche d'une femme, ça devient tout d'un coup extrêmement transgressif. C'est ça qui est étonnant.
Extrêmement subversif, vous le disiez. On comprend bien, on va venir d'ailleurs à Kollontai. Évidemment, un mot, pourquoi Lénine ne s'intéresse-t-il pas à la morale ?
Alors, à la morale sexuelle en particulier, il ne s'intéresse pas d'abord parce qu'il pense qu'il y a des tâches plus urgentes au lendemain de la guerre civile, de construction, dans la construction de la société communiste, et qu'en fait, il y a une certaine énergie dont dispose la population et que l'énergie, il faut la diriger vers les tâches plus strictement révolutionnaires, plus directement révolutionnaires en son sens, et que passer son temps à déblatérer sur les questions sexuelles, c'est gaspiller les énergies du peuple. Et en fait, il recommande aussi, mais ça va être très courant dans les années 20, de faire du sport plutôt, c'est beaucoup mieux.
Alors une femme s'inscrit en faux avec cette vision des choses. Hein. Je vous cite Mathieu Reynaud, je cite ce livre qui s'intitule « Défaire la famille, refaire l'amour » et qui est apparu, je le rappelle, aux éditions La Fabrique. Kollontai, quant à elle, n'aura eu de cesse de démontrer que la lutte pour l'égalité homme-femme sur le plan économique et social est la réinvention des formes de l'amour et de la sexualité. Tout cela est indissociable, fin de citation. C'est cette indissociabilité des choses entre la condition économique et le progrès sexuel que Kollontai tente de mettre en lumière.
Ouais, c'est son credo plus généralement sur la question de l'émancipation des femmes et pas seulement de la révolution sexuelle, mais ça va ensemble parce que pour elle, la révolution sexuelle sera portée avant tout par les femmes dans un premier temps, parce que les hommes, dit-elle à plusieurs reprises, aussi communistes se veulent-ils en politique, restent des bourgeois en amour pour différentes raisons. Et donc pour elle, l'émancipation des femmes est partie intégrante de la lutte sociale plus générale, de la lutte pour l'avènement de la société communiste. C'est sa thèse, mais il y a la contrepartie, tout aussi importante, peut-être plus importante, partie intégrante, mais partie autonome, douée d'indépendance. Et il en va de même pour la question de la révolution sexuelle, et pour elle, révolution sociale et révolution sexuelle, révolution économique sur le plan de la structure et révolution sexuelle du point de vue de l'idéologie ou de ce qu'on appelait la superstructure, ça va ensemble et les deux se renforcent mutuellement. En gros, on ne peut pas reporter à plus tard les expérimentations et la révolution dans le champ des relations amoureuses et sexuelles parce que ça signifierait compromettre l'avenir du communisme. Et il faut, de la même manière qu'il faudrait abolir à terme, en tout cas l'État, c'est une question vaste, l'abolition de la famille qui va avec la question de l'amour, doit être entreprise dès maintenant, au présent.
Il faut revenir aux origines de cette réflexion intellectuelle, de ce parcours intellectuel. Comment est-ce que Kollontai se passionne, s'intéresse à ces questions-là?
Alors, elle y vient un peu tardivement. Elle est née en 1872. Elle y vient en 1905, après 1905, après la révolution avortée en Russie de 1905. Et d'abord, dans le cadre d'une lutte contre ce qu'elle appelle le féminisme, ce qu'on appellerait plus le féminisme tout court, mais en fait c'est le féminisme bourgeois, toutes ces organisations féministes issues de la bourgeoisie qui sont apparues ou qui se sont très fortement développées après 1905 et qui prétendent, selon les mots de Kollontai, unir les femmes au-delà des classes. Et ça, pour des marxistes comme Kollontai, ça va pas, il faut mener bataille contre elles, il faut montrer que la division de classes précède en fait ou sous-tend le conflit sexuel.
Elle y vient intellectuellement, elle y vient aussi par l'expérience tout de même. Elle expérimente ces unions libres, cette nouvelle façon de pratiquer l'amour avec des amants nombreux, avec un rapport à la famille singulier. Il faut nous raconter cela aussi.
Alors, elle a été mariée vers l'âge de 22-23 ans, un certain Vladimir Kollontai dont elle a gardé le nom. Elle a eu un enfant très rapidement qui s'appelait Misha et s'est sentie enfermée dans cette vie maritale et vie de mère. Dans les années qui suivent, dans les décennies qui suivent, elle va écrire par exemple 3 articles qui ont le même titre, qui s'appellent « Le fardeau de la maternité ». Il y a quelque chose de très lourd avec la maternité, mais elle dit en gros la maternité est un fardeau dans les sociétés capitalistes. Il n'y a pas de raison qu'elle le demeure dans la société communiste à partir du moment où il y aura une forme de socialisation des tâches reproductives et de la maternité, l'aide à la maternité, etc. Elle en vient sur le plan de l'amour, elle se sépare de Vladimir Kollontai. Elle va entretenir tout un ensemble de relations libres, d'unions libres avec des hommes du parti, souvent beaucoup plus jeunes qu'elle et qui sont de bords politiques sensiblement différents. Une succession d'unions libres. Alors bien sûr, la théorie que fait Kollontai de l'amour libre laisse ouverte la possibilité d'une multiplicité de relations simultanées, parallèles, mais au fond, elle a avant tout vécu une succession de relations monogamiques, ce qui était déjà une grande avancée de ce point de vue-là.
Quel regard est porté et jeté même sur ces pratiques dont on imagine bien qu'elles tranchent avec la morale et les pratiques et de l'époque et du parti?
Elle a cette thèse qu'elle développe au début des années 20. À un moment, elle est déjà mise en minorité au sein du parti pour d'autres affaires, pour sa participation à l'opposition ouvrière, qui est la thèse de l'amour-camaraderie. Ce qu'elle remet en cause, et ça fait partie de sa critique de la famille plus généralement, c'est l'amour monogamique qui pose l'exclusivité de la relation conjugale, un seul partenaire, et son caractère éternel, ou en tout cas jusqu'à la fin de la vie. Et elle dit tout ça, ça appauvrit l'âme, ce sont ses termes, ça diminue le potentiel psychique des individus. En fait, c'est une mutilation complètement inutile. Il faut promouvoir la possibilité d'une multiplicité de relations, avec une multiplicité d'individus, mais aussi une multiplicité de types de relations et de types d'amour, relations par exemple purement physiques dans un cas, relations de l'ordre de l'amitié dans un autre, toute une gamme d'émotions amoureuses qui sont capables d'enrichir la vie psychique des individus, mais au-delà de ce qu'elle appelle le potentiel d'amour au sein de la société tout entière. Et en fait, ce qu'elle appelle l'amour-camaraderie, c'est pas la camaraderie pour rien, c'est parce que l'amour, les relations intimes, c'est pour elle le noyau de le champ d'expérimentation, premier champ d'expérimentation de ce que pourrait être la société communiste en tant qu'elle aurait comme principe moral par excellence la camaraderie, là où dans les sociétés bourgeoises, le principe sous-jacent, c'était la compétition, la concurrence.
Mais à cela justement, Mathieu Renaud, comment le parti réagit-il face à cela, face à ces saillies théoriques de Kollontai?
Bon, on a parlé, pour commencer, de la réaction de Lénine, plutôt inquiet de ce point de vue-là. Après, durant tous les années 20, il va y avoir une sorte de lutte contre Kollontai, qui représente ce qui était une révolution sexuelle en Russie soviétique, très portée par la jeunesse, qui admirait Kollontai, c'est pas un hasard, donc tout un ensemble de réactions contre Kollontai, d'hommes en grande partie, mais aussi de femmes, et un exemple classique serait un essai publié en 1924 d'un psychiatre qui, pourtant au départ, avait introduit la psychanalyse en Russie, qui s'appelle Aaron Zalkin, qui écrit un texte, enfin, qui est très caricatural, mais qui en dit quand même long, qui s'appelle « Les 12 commandements sexuels du prolétariat révolutionnaire », dans lequel il en appelle à une planification de la vie sexuelle de la population soviétique, comme il y avait pu avoir enfin, l'idée d'une planification économique. Donc, en fait, il y a une contre-révolution sexuelle qui se met en place immédiatement.
Les hommes sont bourgeois en amour, ce sont les mots de Kollontai que vous rappeliez un peu plus tôt dans cet échange. Qu'est-ce que cela signifie, être bourgeois en amour pour elle ?
Déjà, elle observe les membres du parti. En fait, les membres du parti agissent de la même manière que des bourgeois. Leurs femmes restent souvent à la maison. Ils participent, eux participent à des congrès et d'autres choses. Ils continuent à vivre de manière bourgeoise la relation amoureuse. Ils croient au mariage indissoluble, enfin, sans le dire. Et il pense encore la relation amoureuse en termes de propriété privée, parce que c'est ça le fond de l'affaire pour Kollontai, de sa critique de la famille, c'est que la famille bourgeoise, elle est gouvernée par une logique de la propriété privée qui, de la même manière que dans la sphère économique, on pense la propriété sur le corps de l'autre, bon ça c'est ancien, dit-il, dans la relation amoureuse ou dans la relation maritale, pas forcément amoureuse, les hommes possèdent le corps des femmes, mais ce qu'aura inventé selon Kollontai, la société bourgeoise, c'est la possession psychique, le contrôle sur les émotions de l'autre et sur sa vie psychique de manière plus générale. Ça, il dit que c'est une création des sociétés capitalistes et en fait, c'est ce qui avait de plus dangereux. Donc, critique de la propriété privée et il y a une critique du même ordre de la propriété privée dans les relations entre parents et enfants, dans la façon, selon Kollontai, dans les sociétés qui demeurent les nôtres, on pense la relation aux enfants comme un rapport de propriété, mes enfants et pas les autres.
Et le piège absolu dans cet univers-là, dans cet univers de propriété, de domination, évidemment, c'est l'institution du mariage qui vient, j'allais dire, enchaîner tout cela.
Oui, pour Kollontai, c'est le nœud de l'affaire aussi. Alors, il y a le code de la famille est dicté après la révolution de 17, facilite le divorce, donne des droits aux femmes, et une tentative d'égalisation des rapports hommes-femmes au sein du mariage, mais Kollontai, bon, on dit que ça réalise les idéaux de Kollontai, mais en fait, ça va pas du tout assez loin pour Kollontai parce que ça entérine le statut du couple familial dans le droit. Et alors, Kollontai dit non. La chose, c'est qu'il faut plus que le couple conjugal n'ait plus aucune existence légale dans la société soviétique. Donc, on oublie les pensions versées par les hommes en cas de divorce. Alors, nous, ça nous paraît très progressif, les pensions. Kollontai dit bien sûr il faut aider les femmes divorcées, mais ce n'est pas l'affaire des hommes. Sinon, on maintient ce lien et il ne faut pas. Et ça doit être une affaire, les pensions pour les femmes divorcées doivent être payées par des taxes, par la collectivité ouvrière tout entière.
Quand on vous lit, quand on vous écoute, Mathieu Renaud, quand on s'intéresse aussi au parcours, à la trajectoire intellectuelle de Kollontai, on se demande nécessairement de qui elle est l'héritière. Est-ce qu'elle est l'héritière d'Engels et d'une pensée strictement marxiste dans son origine pure, ou est-ce qu'elle est plutôt l'héritière de romancières comme George Sand ?
Alors je dirais tout à la fois. Elle est l'héritière de la tradition marxiste, hein, des textes marxistes classiques, et sur la question des femmes, de ces deux classiques qui étaient La femme et le socialisme d'Auguste Bebel et L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État d'Engels. Mais elle a aussi tout un fond qui lui vient de la tradition socialiste populiste russe pré-marxiste, qui était elle-même influencée par le socialisme romantique utopique français, influencée dans ce cadre-là, Kollontai, par l'expérience des mouvements terroristes populistes russes, l'organisation Narodnaya Volia, la volonté du peuple, où il y avait des femmes. En fait, ce qu'elle décrit, Kollontai, comme la femme nouvelle, c'est aussi ces femmes qui viennent souvent de l'aristocratie quand même et qui sont en rupture de banc familial et qui se sont lancées corps et âme dans le combat politique. Donc, beaucoup d'influences diverses, l'influence aussi de Clara Zetkin, du féminisme-socialisme allemand, et puis sa propre touche là-dedans, sa propre expérience personnelle, parce qu'il y a des choses qu'on découvre chez Kollontai qui étaient nulle part ailleurs.
Les influences de Kollontai, et maintenant, qu'est-ce que Kollontai elle-même a influencé ? On pense nécessairement à mai 68, est-ce que là aussi le lien est si clair, si établi que cela ?
Alors, Kollontai disparaît dans les années 20 parce que il y a une répression stalinienne, sa pensée effacée en Union soviétique, tant et si bien que quand Wilhelm Reich, un des pères fondateurs du freudomarxisme, développe à partir des années 30 des thèses un peu similaires à celles de Kollontai, on voit très bien qu'il ne la connaît presque pas. Donc effacement, Koh-Lanta est ressurgi dans les années 70, mm-hmm. Il y a le recueil Marxisme et révolution sexuelle qui est publié aux éditions Maspero pour s'en tenir à la France. Elle est redécouverte, mais après mai 68, c'est mai 68 qui provoque la redécouverte de Koh-Lanta, et elle redisparaît dans les années 80, pendant les années d'hiver, avec le déclin de la pensée marxiste. Et il y a un retour quand même, depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années, qui est lié à un certain regain d'intérêt, malgré tout relatif, pour la tradition du matérialisme historique, mais voilà, aussi des productions très intéressantes dans le champ du féminisme matérialiste et marxiste.
Vous avez opéré pour composer cet ouvrage qui s'intitule, je le rappelle, Koh-Lanta et défaire la famille, refaire l'amour. Vous avez opéré, dites-vous, un tri important parmi les textes de Koh-Lanta. De quel tri parlez-vous là? Il n'y a pas de l'intérêt partout dans ce qui est écrit chez cette autrice?
Alors, le tri, déjà, peut-être qu'on a fait moins de tri que ce qui est fait parfois sur Koh-Lanta, parce que dans les textes existants sur Koh-Lanta, dans les biographies existantes qui datent des années 80, qui sont par ailleurs vraiment excellentes, on s'est beaucoup reposé dessus pour la partie strictement biographique, il y a une tendance à mettre de côté les aspects plus sombres de la pensée de Koh-Lanta sur la prostitution, par exemple, sur les politiques de ce qu'était le département des femmes dans les ex-colonies musulmanes d'Asie centrale. Là, c'est quand même très problématique. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Et sur quelque chose assez inquiétant chez Koh-Lanta, c'est une sorte de devoir de la maternité. Enfin, l'obligation de procréer, de donner des enfants à la patrie communiste. Donc, en fait, c'était de ce point de vue-là plus inclusif. Après, on a décidé de se centrer que sur la trajectoire féministe de Koh-Lanta, raison pour laquelle on s'arrête en 1923 à son départ de Russie. Et Koh-Lanta est une figure révolutionnaire de manière plus générale. Et ça, on a mis un peu de côté pour se centrer vraiment sur Koh-Lanta, théoricienne féministe, qui ne nous empêche pas d'aller voir d'autres épisodes, mais en tant qu'il se raccroche à ça. C'est quelqu'un qui, Koh-Lanta, qui est une des bras droits de Lénine entre 14 et 17, à un moment où Lénine est, on le prend pour un fou au sein du parti bolchevique lui-même, quand il dit il faut passer tout de suite au deuxième stade de la révolution. Koh-Lanta est à ses côtés, mais ça, on a un peu nous-mêmes laissé de côté.
Est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui une mauvaise compréhension de l'actualité de Koh-Lanta, notamment lorsqu'elle parle d'amour libre, sa conception même de l'amour libre, marxiste, politique, engagé, il faut le dire, est très très différente de l'amour libre tel qu'on le conçoit dans la société libérale aujourd'hui?
Alors je dirais, il y a deux choses. C'est que l'amour libre, pour Koh-Lanta, en fait, la forme de cet amour ne l'intéressait pas beaucoup. Et une multiplicité de relations simultanées ou une multiplicité ou un ensemble de relations monogamiques successives, en fait, il dit les deux sont possibles, mais l'enjeu, il n'est vraiment pas là. L'enjeu, il est dans la multiplicité des types de relations, de ce qui est capable d'enrichir l'individualité. Elle parle dans ces termes-là. Et il y a autre chose qui est important, c'est que Koh-Lanta, en 1911, avant la Révolution, elle dit l'amour libre dans une société capitaliste où la domination des femmes sur les autres plans politiques et économiques n'est pas remis en question, ça peut pas fonctionner. Et en fait, il dit même, ça pose les mêmes problèmes que les autres formes de relations, la relation maritale et la prostitution, parce que la domination masculine peut très bien être reproduite dans la relation libre, et voire être encore accentuée, cette domination. Donc, elle dit, l'amour libre, c'est l'idéal. Mais cet idéal ne peut se réaliser que dans le cadre d'une révolution complète des rapports entre les hommes et les femmes plus largement.
Koh-Lanta, défaire la famille, refaire l'amour, c'est un texte signé Olga Bronnikova et Mathieu Reynaud. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de France Culture, et merci beaucoup à celles et ceux qui font vivre ces matins chaque samedi. Pauline Chanu, Jules Crétois à la préparation, Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique cette semaine, Florian Bujon.